sur Internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 16h sur Radio Aviva.
La quatrième dimension, 16h-18h sur Aviva Montpellier, Xavier Nataf.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez la quatrième dimension et vous avez raison. Nous sommes là pour 2 heures estivales, des conseils de lecture, des bonnes choses à manger, des endroits à visiter. La quatrième dimension, c'est tout ça et bien plus encore. Des collages, des montages, des extraits de films. Mais vous connaissez l'ADN de notre émission. Allez, c'est parti pour 2 heures de Radio Cousumain. Installez-vous tranquillement. Nous, on s'occupe de tout. Chaque jour, vous venez faire un petit tour dans les studios pour nous parler des objets qui évoquent les vacances, l'été. Aujourd'hui, vous nous parlez de quelque chose que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est-à-dire les cadeaux offerts par les stations essence. En tout cas, dans les années 60, 70 et peut-être même 80, c'était une spécialité. Et l'été était l'occasion, puisqu'on faisait des grands pleins, d'obtenir toutes sortes de cadeaux.
Est-ce que, Xavier, vous êtes copocléphile ?
Ouf, et plus encore.
Bon, copocléphile, c'est celui qui collectionne les objets publicitaires. Ces objets publicitaires qu'on connaît tous sous le nom aujourd'hui un peu de goodies. Mais effectivement, au départ, ce sont des cadeaux publicitaires qui sont faits par les stations-service et qui permettaient pour toute la famille de repartir avec son petit cadeau, son briquet, son gadget, ses porte-clés.
Les porte-clés, des autocollants, dont on parlera une autre fois.
Exactement.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils avaient passé des deals avec les maisons d'édition de bande dessinée, notamment Dupuis, donc on pouvait repartir avec des Schtroumpfs, des Lucky Luke, des Gaston Lagaffe et toutes sortes de choses.
En fait, tout est parti à la fin des années 60, quand Avia, Caltex et Texaco, trois grands distributeurs de carburant, ils ont frappé un grand coup, ont transformé en une seule nuit 4500 points de vente avec une seule et unique nouvelle marque, Elf. Et pour cela, ils vont faire une campagne d'objets publicitaires, de produits Elf. Et pour cela, pour faire venir les clients et pour attirer la curiosité des clients, ils vont distribuer une multitude de produits logotisés Elf. Donc tout le monde se posant la question de qu'est-ce que ça va être. Donc ça a vraiment un immense succès. Et on va dire que le goodies est né à ce moment-là. Quoi.
Donc c'est l'idée de évidemment, c'est un produit marketing. Et l'idée est de fidéliser non seulement le consommateur, celui qui conduit la voiture, mais aussi toute sa famille.
Toute sa famille. Et puis aujourd'hui, de toute façon, tout type de produit fabrique son goodies. On peut même commander pour sa petite entreprise des briquets à son effigie. Ça devient un goodies. Hein. À partir du moment où il y a un logo dessus, une marque dessus, c'est un goodies.
Bon, alors évidemment, il n'y a pas que... Bon, là, aujourd'hui, on évoque les stations essence parce que c'est lié à l'été, mais cette histoire d'associer un produit à un cadeau, c'est pas nouveau. De célèbres marques de lessive,
on fait leur
beurre là-dessus.
Cadeaux bonus.
Les cadeaux bonus.
Ah oui, moi j'étais ravi quand ma mère a acheté des boîtes de Bonux pour moi prendre le cadeau. Et souvent il était au fond, donc il fallait un peu envoyer la main et ressortir la main pleine de poudre à laver. Mais le fameux cadeau Bonux. Et en fait, on peut même parler. Il y a une petite anecdote aussi sur les goodies. Tiens. En 94, lors de la Coupe du Monde de football aux États-Unis, évidemment les Américains là-dessus sont très forts hein, pour faire plein de produits dérivés, des produits rigolos. Et ils ont l'idée de donner en goodies une espèce de petite trompette en plastique pour s'amuser.
Pour faire du bruit pendant le match.
Pour faire du bruit pendant le match, dehors de match, tout ça. Quoi. Sauf que ils en ont tellement fabriqué, ils en ont tellement donné, et que tout le monde les utilisait, que ça faisait énormément de bruit, les fameuses Vuvuzela. Je sais, tout le monde s'en souvient encore, dans les stades, c'était tellement bruyant qu'ils en ont été obligés de les interdire sur certains matchs, parce que les joueurs ne s'entendaient plus entre eux, quoi. On n'entendait que les Vuvuzela, c'était devenu même un grand sport national que de faire le match en Vuvuzela.
Vous qui êtes le spécialiste des trompettes, on vous retrouve demain pour un nouveau chapitre de cette encyclopédie des produits de l'été. Merci Laurent.
Merci Xavier le coco Cléphile.
Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on était fort riche. Le client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a répliqué en murmurant
« Ça cloche, c'est pas où il est passé. »
Hein ? Arthur, où t'as mis le corps quand c'était crié sans cœur ?
Ben, je sais plus où j'ai foutu le mec.
Arthur réfléchit, non de là, ça a une certaine importance.
Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle pas où que je l'ai mis.
C'est pas vrai, Arthur. Mais le marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse, un quart de flic au trousse, on la trouvait moins bonne. On a loupé un tournant, et on se retrouve en plein, au milieu d'une vitrine. Les poulets s'amènent en tas, et puis ils nous cuisinent. Dans la petite pièce du bas. Oui, oh, 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 oh.
Arthur, où t'as mis le corps ?
S'écriait l'inspecteur.
Ben, c'est plus où se l'est foutu le mec. Arthur réfléchit, non de là. Ça a une certaine importance. Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle plus où que je l'ai mis.
Alors, y a plus de preuves, hein ? Hein, y a plus de preuves.
On a écopé 10 ans, c'est plus que suffisant pour apprendre la belote. On pouvait pas s'empêcher de toujours questionner notre malheureux pote. Comme il maigrissait beaucoup, on cogne plutôt mou pour pas trop qu'il s'étiole. Mais à nous-mêmes on pensait, Arthur se paye notre fiole. il nous fait tous marcher. Tu vas causer, oui? Arthur, où t'as mis le corps? Tous les jours on lui demandait. Arthur, il en est mort et on ne sait pas où il est passé. Amen, alors Arthur, oui. Allons mes enfants, votre copain Arthur, où l'avez-vous mis, hein? Dites-le à votre bon petit directeur, hein? Aucun nom ne se rappelait plus ce qu'on avait foutu de cette Arthur de mer. Et le directeur Furax attrapait des anthrax à dire qu'ils se perdent. On a fait venir un devin qui lisait dans les mains et même dans les oreilles. Mais comme tout ça donnait rien, un beau soir on essaye. Le spiritisme ancien, ça tourne les enfants, ça tourne. Arthur, es-tu là?
Oui, le corps.
Arthur, où t'as mis ton corps?
Je n'ai plus de corps, le gars.
Arthur, as-tu du cœur?
Belote, les gars. Rebelote et 10 de l'air.
Ah! Et on a enfin compris que ce salaud d'Arthur était au paradis. Oh, la vache, Arthur.
Salut.
Salut.
Alors voilà, donc oui, ce bâtiment est une yeshiva, mais est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une inscription au-dessus de l'entrée qui est carrément très très flippante? Qu'est-ce qu'elle veut dire?
Bah, tu le sais pas, t'es un peu juive, non?
Oh, pas de mon plein gré. En fait, tu vois, la religion, c'est vraiment pour les crétins, ok? C'est raciste, c'est sexiste. Il y a pas de pognon à se faire. De nos jours, ça sert à rien.
Radio Aviva, Xavier Nataf.
Dans le film à voir ou à revoir aujourd'hui, je vous propose de revenir sur le film de 2006 d'Eli Chouraki, Au Jérusalem. C'est l'adaptation des récits éponymes de Dominique Lapierre et Larry Collins qui retrace l'émigration juive en Palestine mandataire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la création de l'État d'Israël et les divers enjeux opposant les forces de défense d'Israël, la Haganah, l'Irgun, etc., avec l'Alliance arabe pour conquérir Jérusalem. Un film qui, paradoxalement, n'a pas été tourné en Israël pour des raisons de sécurité, mais sur l'île de Rhodes, où le réalisateur Eli Chouraki a reconstruit une vieille ville, comme à l'époque de 1948.
Vas-y, chérie, appuie sur le champignon.
C'est ce que je fais, j'appuie. Tu veux venir le faire à ma place?
Je comprends pas pourquoi elle veut pas démarrer.
Jacob, combien tu l'as payé?
Oh, ta gueule, Goldman, m'agresse pas devant ma voiture, c'est une Buick de 1928.
Ton portefeuille en a pris un coup. Cathy, comment tu fais pour le supporter?
Pousse-toi, pousse-toi, chérie.
Allez, vas-y, démarre là.
Oui, voilà.
Démarre là.
Voilà. Je la démarre. Rentrez! T'as vu comment elle
monte le volume.
Un attentat a eu lieu aujourd'hui en Palestine. L'attentat a été revendiqué par l'Irgun, une organisation extrémiste juive, détestée des Anglais, redoutée par les Arabes et désapprouvée par la majorité de la communauté juive, y compris la Haganah, une autre armée secrète juive, qui a déclaré qu'elle condamnait cette attaque et qui a demandé...
Jacob, redémarre là, allez, redémarre là, Jacob. Oh. Bobby!
Mais où est-ce qu'il va?
Bobby, où tu vas? Bobby!
J'ai Fanelli!
Fanelli! Bobby! Faut pas faire attention! T'as failli me tuer, pauvre idiot!
Mais c'est toi là qui arrive en courant comme un malade!
Bah, c'est moi le malade!
Et qui alors? Tu vois quelqu'un d'autre?
Dépêche, dépêche! Il marche. Oh,
c'était l'hôtel King David, le QG des Anglais. L'attentat a été revendiqué par l'Irgun.
Il y a des victimes?
90 morts.
Fâche.
Pourquoi ils ont fait ça? Pour quelle raison? C'est ça, l'Irgun. Ils n'accepteront rien, ni l'internationalisation de Jérusalem, ni le partage. Avec la Haganah, on discute, mais avec ces fous, il n'y a pas moyen.
Tu es juif?
Ouais, et toi? Non. Arabe de Jérusalem. Saïd Chaïm.
Bobby Goldman, tu courais où comme ça?
J'allais chez Fanelli sur Prince pour écouter la radio chez eux.
Et ben on est parti.
de la bordure du quai. Nous vous rappelons que dorénavant, l'étiquetage de vos bagages est obligatoire.
Les pas chats du congé payé dans notre camping caravane. Avec nos jolis Marcel à trous, on se fait pas suer le burlou dans notre camping caravane.
Nick.
Les dimanches on va voir la mer. C'est la promenade hebdomadaire dans notre camping caravane.
Vas-y dans pépé, vas-y dans mémé.
Y'a rien qui manque.
On n'entend plus le bruit de l'orage quand on voit passer les mirages. Pendant la sieste entre 15 et 16, ne dirait-on pas, Germaine, que les embêtes.
Sous la lumière de nos réverbères, c'est l'aura si ça, ça m'aimait.
Vous nous rejoignez à ce micro pour nous proposer un ouvrage à lire cet été.
L'été où tout a fondu. C'est d'actualité, bien entendu. De Tiffany McDaniel, aux éditions Gallmeister. Je vous emmène, Xavier, dans l'Ohio, en 1984, en plein été, dans une petite ville donc pétrie de ferveurs religieuses et de préjugés. Le procureur, tourmenté par la lutte entre le bien et le mal, publie une annonce dans le journal local. Il invite le diable à venir lui rendre visite. Le lendemain, un jeune garçon à la peau noire et aux yeux verts se présente devant le tribunal. Il prétend répondre à l'appel. Des événements inquiétants commencent alors à se produire et réveillent les superstitions. Cet enfant est-il l'incarnation du mal ou un simple vagabond à l'âme meurtrie ? Et dans le même temps, une vague de chaleur infernale s'abat sur la ville.
Waouh, quel pitch ! Peut-être nous faire entendre la langue de l'auteur ?
La chaleur est arrivée avec le diable. C'était l'été 1984. Le diable avait bien été invité, mais pas la chaleur. On aurait pourtant dû s'y attendre, après tout. La fournaise n'est-elle pas un attribut du diable ? L'un ne va pas sans l'autre. Cette chaleur n'a pas seulement fait fondre des réalités tangibles, telles que la glace, le chocolat, elle a aussi fait fondre des choses abstraites. La peur, la foi, la colère, ainsi que les repères les plus fiables du sens commun. Elle a également fait fondre des vies, les privant d'un avenir enseveli sous les pelletées de terre du fossoyeur. J'avais 13 ans quand tout cela est arrivé, un âge où je me suis trouvée complètement brisée et changée par l'existence, comme jamais je ne l'ai été auparavant. Cela fait bien longtemps que je n'ai plus 13 ans. Si j'étais du genre à encore fêter mon anniversaire, il y aurait 84 petites flammes qui vacilleraient au-dessus de mon gâteau, au-dessus de toute cette vie passée et des souvenirs terrifiants qui la hantent avec sa tragédie inéluctable, avec son été en forme de gueule monstrueuse qui s'est ouverte toute grande pour engloutir le petit univers que nous appelions Bretted dans l'Ohio.
Ça s'appelle « L'été où tout a fondu » et c'est un livre de...
Tiffany McDaniel.
Tiffany McDaniel, merci Kilou pour ce conseil. À demain.
À demain.
Pour cette émission, nous vous proposons l'autre version, une chanson connue dans une version décalée. Aujourd'hui, la Panthère Rose, interprétée a cappella, seulement avec la bouche, par les Swingle Singers.
La quatrième dimension, 16h-18h, sur Aviva Montpellier, Xavier Nataf. I can't dance. 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 I can't dance.
Dead motor, get caught.
I can't dance.
You can't dance.
Got in my pants. No, I can't dance.
You can't dance.
Got ants in my pants.
Ants in your pants.
De Kino.
Bonjour Kino.
Bonjour.
Vous êtes tous les jours avec nous pour nous faire des propositions de recettes. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez ?
Aujourd'hui, pour notre apéro d'été, je vous propose une tartinade au poivron.
Ça sent déjà bon. Alors ça, c'est idéal pour accompagner l'apéritif.
Voilà, l'apéritif sur du pain de campagne ou encore une fois avec des légumes. Tout est possible avec cette recette. Nous allons commencer par la base de la base. Je suis désolée, mais par deux gousses d'ail. C'est quand même le sud de l'ail, ça nous caractérise. Puis, vous allez rajouter 80 g de poivron rouge que vous aurez coupé en petits dés. 80 g de poivron jaune, coupé aussi en petits dés. 100 g de concombre épépiné et coupé en petits dés aussi. Et vous mettez tout ça dans votre mixeur et vous mixez pour en faire une purée. Je vous conseillerais de ne pas trop mixer pour garder une consistance un tout petit peu granuleuse pour sentir un peu les petits bouts de poivron. Une fois que vous aurez fait cette purée de poivron, vous rajouterez 400 g de fromage frais à votre goût, du samouré, du petit billy, tout ce que vous voulez, qui va donner la consistance crémeuse. Vous pouvez épicer avec du curry, du paprika, du sel, du poivre.
Peut-être même du piment.
Peut-être du piment si vous aimez ça. Puis, une fois que vous avez bien mélangé, vous mettez au réfrigérateur cette pâte qui peut être conservée plusieurs jours et vous servez bien frais à l'apéritif sur du pain grillé ou avec des légumes croquants.
Bon, j'imagine qu'on peut manger ça aussi au goûter si on a un petit creux.
Vous en faites ce que vous voulez, en fait.
Merci beaucoup. On vous retrouve demain, Kinou.
À demain.
For you and me.
I'm up on the volcano. I'm gonna get you, yeah. I in the my Capuana.
Mon parcours avec le cinéma, parce que moi je suis une transfuge de classe, c'est-à-dire que chez moi il n'y a jamais eu aucun outil culturel. Mon père s'est barré quand j'avais 2 ans et ma mère m'a élevée seule. Et comme ma mère n'avait pas un rond, son moyen de garde à ma mère, ça a été de me coller au cinéma dès qu'elle travaillait. Elle travaillait beaucoup. Et donc, dès l'âge de 8 ans, moi, mon gardien ou ma gardienne a été le cinéma. C'est-à-dire que j'étais dans la salle de proximité de l'endroit où on habitait à Épernay. Et en fait, quelque part, c'est le cinéma qui m'a tout appris. L'histoire, la géographie, les langues, tout ce que j'ai pu tirer qu'il n'y avait pas chez moi en matière de culture, c'est vraiment le cinéma qui me l'a apporté.
Chantal Fischer est directrice artistique et productrice dans le monde du cinéma. On lui doit des films et des séries comme Le Fils du Joueur, Tégro ou Un Fils de Mehdi Barchaoui.
Donc, quelque part, c'est pas qu'un film qui m'a construit, mais globalement, le cinéma. On dit toujours que les transfuges de classe, ils s'en sortent quelque part quand ils font une rencontre et qu'il faut toujours s'interroger sur ces rencontres. Et c'est clair que moi, c'est ma rencontre avec le cinéma qui fait que... C'était un cinéma de quartier, ça s'appelait Cinéma La Cité, d'ailleurs il n'existe plus ce cinéma qui était à Épernay, vraiment juste à côté de la maison. J'allais voir tout, j'allais voir des westerns, j'allais voir tout en fait, aucun contrôle, aucune surveillance et aucun contrôle, donc je voyais tout.
Ok, warm enough?
Nous, on est en famille d'accueil et dans 3 familles d'accueil séparées. Donc, une sœur était dans un endroit, l'autre dans un autre endroit à la campagne d'ailleurs. Et moi, j'étais avec ma mère. Ma mère m'a reprise avec elle quand j'avais 8 ans. Donc, à partir de l'âge de 8 ans, c'est-à-dire à partir du moment où j'étais à nouveau chez ma mère, seule, puisque mes sœurs étaient en famille d'accueil, à partir de ce moment-là, j'ai été livrée au cinéma. Voilà.
Balzac 0001, Joe Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris.
Je dirais que c'est un ensemble de d'apports. Alors j'ai fait un peu naturellement, je dirais, compte tenu de ce contexte, j'ai fait des études de cinéma. Hein. C'est vraiment vers ça que je me suis dirigée tout de suite, comme s'il y avait effectivement quelque chose de naturel. Voilà. Comme c'était quelque part mes seules bases, c'est devenu assez normal que je fasse du cinéma. Moi, je suis allée en fac, j'ai fait une fac de cinéma à Nancy. De ce moment-là, c'est global, c'est général. J'ai pas un film en particulier. Souvent, les gamins disent ouais, moi, j'ai vu Blanche-Neige, machin, tout ça. Mais non, j'ai pas de souvenirs. C'est vraiment des souvenirs de cinéma entremêlés. J'ai grandi avec ça parce que ça ne m'a pas quitté. Après, quand j'ai été en mesure d'être autonome et de me garder moi-même, bien entendu, j'ai retrouvé l'intimité de la salle et cette espèce de confort et de sensation quand tu te retrouves dans le noir et que l'image arrive, qui est pour moi quelque chose d'inégalé.
Tu pars maintenant ?
J'ai rendez-vous demain matin.
Mais tu pars pas comme ça, sans rien.
J'achèterai une chemise en route. C'est ça l'aventure.
On retrouve facilement les films produits par Chantal Fischer sur les plateformes légales de téléchargement ainsi qu'en DVD.
Radio Aviva, Xavier Nataf.
The bottle, maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies, names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spent my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me, you help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warmer than sunshine. Hey, hey. Your mama may have blessed the child that's got his own. Well, I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Come on, share your dollar with me. Go ahead, share your dollar with me. Come on, share your dollar. Give me your dollar. Share your dollar with me. Come on, share your dollar with me.
La BD du jour.
Aux éditions d'Argo, Rentrez chez vous, le tome 10 du Chat du Rabbin, le héros fait l'idée de Johann Sfar. Pour ce 10e opus, l'auteur confronte sa petite communauté juive d'Algérie dans les années 30 à d'énièmes insultes antisémites.
Il m'a semblé qu'il y avait une permanence dans cette haine-là, et que la haine qu'on pouvait sans doute entendre en Algérie dans les années 30, on l'entend aujourd'hui en France, on l'entendait, Et ce qui m'intéressait surtout dans ce récit, c'est pas un récit sur l'antisémitisme, c'est un récit sur l'envie qu'ont eu beaucoup de familles juives, d'où qu'elles viennent, d'émigrer en Israël. Et j'ai essayé de raconter comment, dans une famille qui ressemble à la mienne, cette envie a pu s'exprimer entre 1870, donc le décret Crémieux, et les guerres israélo-arabes des années 70.
Et nous sommes allés en Israël en 1973. Oui, j'étais encore vivant. Oui, Zlabia et son idiot de mari et leurs enfants étaient encore vivants. Nous vivons vieux dans la famille. Nous sommes arrivés au milieu d'une guerre avec les Arabes. Enfin, contre. Nous nous sommes rendus au mur des lamentations afin de nous lamenter.
Pourquoi je parle jamais de Proche-Orient dans mes récits ? Parce que la passion est telle, dans un camp comme dans l'autre, qu'on a parfois l'impression qu'il n'y a pas de place pour le romanesque ou pour un récit de fiction, et on va tout de suite être pris dans le vacarme. Donc moi, j'ai choisi de raconter la vision d'historien de ma grand-mère, c'est-à-dire une espèce de succession de récits intimes qui sont sur des souvenirs personnels que j'ai plus ou moins transformés, et qui racontent l'absurdité. Quand j'explique que ma famille n'a pas émigré en Israël parce que ma grand-mère n'aimait pas la climatisation, c'est la stricte réalité. C'est ma grand-mère, on est allé en Israël, elle a attrapé froid parce qu'il y avait la clim, et elle a dit on ne va plus jamais là-bas. Et ça, moi je trouve ça extrêmement intéressant, de voir comment dans les journaux télévisés, dans Twitter, on vous parle toujours de très grandes idées, mais quand on va dans la réalité des familles, finalement les familles sont des petits groupes brinque-ballés par l'histoire, qui se retrouvent dans un endroit ou dans un autre. Je trouve très juste la loi de la gravitation appliquée aux familles. Les familles, c'est des machins qu'on balance en l'air et ça atterrit où ça peut. Ça m'a beaucoup plu.
Et comme toujours avec humour et distanciation, l'auteur emmène ses personnages entre Jérusalem et la Galilée.
J'essaye toujours de faire rire sans faire croire que j'ai de l'espoir. Pour moi, les pages les plus importantes du livre, ce sont les pages qui se passent au Yad Vashem, donc au musée de la déportation en Israël, où je suis allé à l'âge de 7 ans. Et je me souviendrai toute ma vie, mon grand-père maternel, donc qui cherchait trace de sa famille, qui a disparu pendant la Shoah par balle, dans des listes de déportés, et mon père qui était tout à sa rage de n'avoir pas pu se battre à cette époque-là, puisqu'il était trop jeune et il était en Algérie. Et mon père est venu me voir en me disant, tu vois, Hitler a tenté de nous exterminer, alors tu dois faire fin d'enfant pour que notre peuple survive. Et mon grand-père sort de sa liste de déportés, vient me voir et dit devant mon père, explique à ton père que tes parties génitales ne servent pas à combattre Hitler. Et j'ai été d'abord très reconnaissant à mon grand-père d'avoir cet humour désespéré à ce moment-là. Et je crois que si j'avais pas eu ce grand-père-là, et aussi ce père-là, j'aurais jamais fait le chat du rabbin.
Pas de revolver, lui a demandé le peintre russe, qui continuait de parier sur l'émergence un jour d'une Russie civilisée. Ne tuez personne, ajouta le rabbin, sinon on va encore nous accuser. Le peintre et le mari, et même Zlabia, se sont jetés dans la bagarre.
Alors qu'il avait déjà promené son chat à travers plusieurs continents et pays, Johann Sfar prend cette fois-ci quelques libertés temporelles en faisant traverser à sa petite tribu différentes époques.
Il y a eu un vrai diptyque entre le 9e et le 10e album. Dans le 9e, j'ai brièvement montré Zlabia enfant, et dans le 10e, je l'ai brièvement montré vieille dame. Et ça, c'est une manière de préparer ma lectrice ou mon lecteur au fait que, bah oui, dorénavant, je peux faire des albums qui se passent entre 1870 et 1970, avec le même chat.
Auteur n'hésitant pas à se dévoiler, Johann Sfar, avec ses BD et ses films, partage sa vision du monde, des fictions qui lui permettent de canaliser le chaos dans lequel nous vivons.
Bah, c'est quand même très 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 juif, hein, tout ce que je raconte. Dans l'anxiété, dans le défaitisme, Il y a une seule chose juive qu'on n'arrive pas à vendre, c'est le messianisme. Je ne crois pas au lendemain qui chante, je crois pas. Je crois que la spécificité juive, c'est justement de l'attendre, le Messie. Le jour où il arrive, on cesse d'être juif.
Rentrez chez vous dans la collection Poisson Pilote des éditions Dargo.
Labia !
Oui, papa ?
Labia, prête-moi des livres en français.
Des livres ? Pourquoi faire, papa ?
Une dictée. Je vais devenir le rabbin officiel de notre communauté.
Mais papa, tu es déjà le rabbin.
Non, je suis juste rabbin comme ça.
Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir avec qui est rabbin ici, les Français ? Et pourquoi ils veulent te faire faire une dictée ?
C'est pour voir si je suis apte. Tu veux pas qu'ils mettent n'importe qui rabbin officiel, non ?
Moi, je trouve ça vexant qu'ils te fassent faire une dictée.
Oh, mais qu'est-ce que tu comprends, toi ? Donne des livres. Et toi, sois utile, dicte-moi.
Daphné, c'est Alcimadure.
Qu'est-ce que c'est ?
Le titre.
Une fable de La Fontaine qui a un titre pareil ?
Oui.
Choisis-en une autre.
Le chat, la belette et le petit lapin, ça vous va ?
Oui.
Non, parce que si vous voulez, je peux chercher une fable qu'avec des animaux cachers.
Les activités de cet été.
Petite idée si vous en manquez pour vous, pour vos enfants, vos petits-enfants peut-être. Et si vous imaginiez de faire du camping dans une réserve naturelle, il y en a immanquablement à côté de là où vous êtes. Ça ne demande pas de grande préparation. On peut y rester plusieurs jours, mais juste une soirée peut convenir aussi. Profiter du silence loin de la ville, voir passer des animaux, entendre le vent dans les arbres et regarder l'immensité du ciel.
Le feuilleton de la semaine.
Deuxième épisode du crime d'Orcival d'Émile Gaborio. Hier commençait cette enquête, des braconneurs qui découvrent le corps sans vie d'une femme à Orcival, un 9 juillet. Il s'agit de la comtesse Trémorel.
Et de Troyes, les deux braconniers et cet ivrogne. On tient toute la bande. C'est bien votre avis, monsieur Lecoq ? Tout cela était enfantin, aveuglant.
Un peu de trop.
Comment ?
Je n'aime pas être aveuglé. Vous m'amusez, monsieur Lecoq.
Croyez bien que je regrette de ne pas assister à vos perquisitions, car vous tenez toujours à en faire, n'est-ce pas ?
Plus que jamais, monsieur le juge.
À votre guise. Temps perdu ne se rattrape jamais, et moi, je n'ai pas de temps à perdre. Je vous laisse. À demain, à Corbeil, au palais de justice.
J'y serai.
Mes devoirs, monsieur le juge. J'y pense. Et si vous avez besoin de renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser au maire, M. Courtois, qui a fait les premières constatations, ou au docteur Plantanet. Tous deux étaient des familiers du château. Ils partagent entièrement mon opinion, ma certitude sur ce crime.
Si cela s'avère utile, je les verrai.
Merci, monsieur le juge.
Excusez-moi, docteur, de me présenter chez vous à une heure aussi tardive.
Je suis Monsieur Lecoq.
Je sais. On m'a signalé votre présence au château.
Oui, j'ai été retenu jusqu'à maintenant par mon enquête.
Votre enquête ? Je croyais que celle du juge avait abouti à l'arrestation des coupables.
Ma foi, docteur, je ne serais pas si affirmatif. Cette affaire ne me paraît pas aussi simple. J'ai fait quelques remarques assez troublantes.
Vraiment ? Lesquelles ?
Excusez-moi encore, je dois en réserver la première révélation au juge. Mais j'aurai certains renseignements à vous demander.
Je suis à votre disposition. Asseyez-vous. Je vous écoute.
Ma première question est délicate. Elle tient au fait que tous les fauteuils du château ont été lacérés, défoncés, et tous les livres éparpillés, ouverts.
Le juge m'a parlé d'une grosse somme d'argent que recherchaient les criminels.
Oui. Seulement les liasses de billets se dissimulent mal dans un repli de siège ou dans un livre. Ce serait plutôt la cachette pour un papier, pour un écrit.
Oui, je vois.
Il s'agirait alors d'un document très important qu'aurait détenu le comte ou la comtesse. Et j'ai pensé que vous, docteur familier du château, vous pourriez avoir une idée sur ce que ce papier pourrait être.
Mais non.
Vous semblez hésiter.
Il vous vient parfois des idées ridicules, on les chasse.
On a parfois tort.
Ajoutez une question de scrupule. Je pense à un dépôt qui m'a été confié sous le sceau du secret.
Le crime de cette nuit ne vous en libère-t-il pas ?
Je le crois, oui. Voici. Cela n'a sans doute aucune importance pour votre enquête. Peu avant sa mort, mon ami Sauvigny, propriétaire alors du château...
Et mari de la comtesse, oui, je sais.
...m'avait confié une enveloppe que je devais remettre à sa veuve le jour de son remariage avec Trémorel. Ce remariage, était son idée fixe à Sauvigny. C'est ce que je fis le jour où il fut célébré, et cela en présence du comte, comme cela m'avait été prescrit. Il réclama l'enveloppe, la comtesse refusa de s'en dessaisir et sortira comme pour la mettre en lieu sûr. Il la suivit bientôt sans même s'excuser de me laisser seul. Il me sembla entendre des éclats de voix. C'est tout. Cette scène, je vous le répète, est insignifiante.
Qui sait ? Que pensez-vous qu'on pouvait contenir cette enveloppe ?
Des dispositions d'intérêt sûrement. Puisque si l'union n'avait pas lieu dans les 2 ans après la mort de Sauvigny, je devais envoyer ce pli au procureur de la République.
Au procureur de la République ? Tiens, ce sont plutôt des plaintes ou des dénonciations qu'on lui adresse.
Oh, pas à retardement.
Ça arrive. Le comte et la comtesse de Trémorel avaient-ils la réputation de faire un bon ménage ?
Excellent. Troublé parfois par des scènes de jalousie. Le comte était assez léger. Tenez, à l'annonce de son mariage, une de ses maîtresses est venue jusqu'à Orcival pour faire un esclandre.
Sauriez-vous le nom de cette personne ?
Non, mais on le retrouverait facilement à l'hôtel des voyageurs de Corbeil où elle descendait et où le comte allait la rejoindre.
C'est à noter. Autre chose, docteur. Voici des reçus que j'ai trouvés glissés sous le marbre d'une cheminée. Pour une somme coquette. Vous dit-il quelque chose ?
Donné. Signé Rocheron ? À ça que diable les Trémorel avaient-ils affaire avec ce gredin ?
Un gredin ?
Oui, c'est un garçon que j'ai employé un certain temps pour ranger mon laboratoire et dont j'ai dû me défaire. Il m'avait à plusieurs reprises cassé, prétendait-il, des fioles d'un produit précieux. Je me suis toujours demandé s'il ne me les avait pas volées.
Un produit nocif ?
Redoutable.
L'importance des sommes marquées sur ces reçus le faisait prévoir. Dites-moi, ce Rocheron a quitté le pays ?
Non, il fait le guérisseur, l'apothicaire véreux.
Regardez la date de ces reçus. Monsieur Sauvigny était vivant.
Que voulez-vous dire ?
Rien encore. N'avez-vous jamais entendu parler d'expériences de chimie qu'on faisait au château ?
Jamais. Et comme c'était ma spécialité, on m'aurait mis au courant.
À moins que, justement, par crainte d'un jugement sévère...
Ce n'est pas impossible.
Vous avez entendu ?
Quoi ?
Je crois qu'on a marché dans le jardin.
Il aurait fallu escalader. Quand on vient me chercher, il y a la sonnette de nuit. J'ouvre ici.
On doit croire la maison endormie.
Oui, les rideaux sont hermétiquement clos.
Pourtant, baissez la lampe, docteur. J'appelle. Gardez-vous en bien. Là. Oui, oh. On monte l'escalier. Restez dans ce fauteuil. Restez assoupis.
Laissez-moi faire.
Écoutez Radio Aviva et il est